Je suis professeur à l'EPFL et je continue à apprécier énormément cet environnement. C'est une école qui nous permet en fait d'échanger avec d'autres acteurs dans la recherche et d'autres disciplines. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et je pense que ici en Suisse, on a eu la conviction de concentrer en fait beaucoup de moyens à certains endroits. Et nous continuons à profiter de cela. Je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler dans cet environnement. Alors bon, personnellement, j'ai toujours été intéressé par l'intersection architecture et génie civil. J'ai toujours voulu en fait rapprocher un peu ces disciplines. Et nous avons réalisé, en tant que bureau d'études privé des bâtiments publics, essentiellement en Belgique dans un premier temps, mais aussi un peu en Suisse. Et c'est clair que ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, c'est augmenter en fait la consommation du bois dans nos constructions et également réaliser des transferts technologiques avec nos partenaires industriels. On a gagné en 2009 avec l'atelier Cube le Parlement vaudois à Lausanne. C'est un bâtiment complexe, mais ce n'est pas un bâtiment qui incarne réellement une innovation technologique. Donc c'est une structure qui met en œuvre des panneaux CLT, qui travaillent dans l'espace. C'est des connecteurs métalliques, mais ce n'est pas quelque chose qui vraiment va au-delà du state of the art. Alors, Monsieur Müller, cet après-midi a montré que beaucoup de produits dérivés du bois augmentent dans la résistance lorsqu'on assemble plusieurs éléments ensemble, comme il a montré pour les hêtres. Et je crois que c'est intéressant d'appliquer aussi cette réflexion-là à grande échelle. C'est-à-dire, on peut très bien en fait augmenter le système, la résistance par un facteur système sur des produits dérivés du bois, mais on peut aussi atteindre des portées plus grandes à partir d'une multitude de petites pièces, comme Philippe Delhomme l'a fait, et ça nous permet aussi d'éviter en fait des ruptures locales dans ces systèmes. Donc, juste pour faire un petit crochet par l'enseignement à l'EPFL, c'est quelque chose que j'essaie en fait de transmettre aux étudiants, c'est l'idée que des structures peuvent travailler dans l'espace à partir d'une multitude de petites pièces, comme par exemple ce système Zollinger ici, où on peut montrer vraiment par la modélisation mécanique que c'est des structures qui travaillent dans l'espace. Donc contrairement à ce qui nous lie à la charpente traditionnelle où on a quelques pièces qui doivent résister, on a ici une sorte de maillage qui résiste dans son ensemble. On le voit bien dans ces simulations-là. Et donc, ces principes-là sont des principes intéressants qui peuvent aussi aider à introduire le bois dans des programmes publics. On a cet après-midi beaucoup parlé, disons, du logement ou du logement unifamilial. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'introduire ce matériau dans les bâtiments publics. Alors, à ce titre-là, je pense que les frères Grubenmann, ici dans la région Saint-Gall, ont fait des structures très intéressantes qui ressemblent un peu à des précurseurs de nos charpentes industrielles en utilisant une multitude de pièces qui forment un ensemble, je trouve, esthétique, mais structurellement efficace et qui leur permet aussi de mettre en œuvre des sections prismatiques qui ne dépassent pas une section de 14 sur 14 cm. Donc c'est quelque chose d'intéressant à enseigner aux étudiants, parce qu'on voudrait que les ingénieurs civils comprennent la construction, que ce n'est pas quelque chose qui est hors de leur esprit. Et on les invite, en fait, en tirant profit de la connaissance d'observation des œuvres de Grubenmann, de créer des variantes structurelles. Donc ici, par exemple, c'est une variante structurelle qui a été développée par une équipe d'étudiants du 3e bachelier en architecture à l'EPFL, qui peuvent alors, durant l'examen, montrer ce qu'ils ont retenu des projets choisis, observés, et comment ils ont transféré ces connaissances sur leurs variantes élaborées. Alors, vous connaissez un peu les travaux antérieurs que nous avons entamés. C'est vrai qu'en 2008-2009, on s'est plus intéressé aux produits dérivés du bois. Les panneaux, on voulait les utiliser sous forme structurelle. C'est quelque chose d'efficace de ne plus travailler avec des éléments prismatiques, mais d'aller plus vers des structures qui travaillent dans leur surface. Vous avez un peu les ingrédients de l'e-bois de l'époque où on a, évidemment, vous l'avez entendu cet après-midi aussi, une forte automation déjà du secteur de l'industrie du bois. C'est très bien, en fait, on est très loin dans ce domaine, mais on a toujours voulu aussi s'intéresser à la forme globale. Donc la chapelle Saint-Loup, à l'époque, a été construite sous cette forme. C'est essentiellement la forme plissée qui était innovante et beaucoup moins les assemblages. Et donc, c'est justement ces assemblages qui sont intéressants et qui doivent être pris en compte davantage. Si vous voulez, on aimerait tendre vers les applications plus low-tech. On ne voudrait pas les superpositions de toutes ces couches. On voudrait moins de couches. On voudrait moins de matériaux différents. On voudrait finalement produire des bâtiments qui, lorsqu'un jour ils doivent être démolis, ne demandent pas beaucoup de temps pour le tri de ces matériaux et pour le fait de les évacuer ou pour les réutiliser. Alors, c'est vrai que l'industrie du secteur est fort évoluée. On l'a vu, en fait, dans le débat qui a précédé ici cette présentation. Mais souvent, des connexions sont reproduites telles quelles en observant ce qui existait historiquement. Donc, on ne tient pas directement compte, finalement, des technologies pour les réinterpréter, pour éventuellement modifier aussi la typologie des connexions. Et donc, avec Stéphane Roche, on a commencé un travail où on a pris finalement des connexions existantes dans l'ébénisterie pour les transporter à l'échelle de l'ingénierie civile. Et ça a montré que finalement, on ne peut pas dissocier la découpe d'un panneau dans une géométrie globale de la découpe de l'assemblage de ces panneaux. Et donc, ces opérations qui auparavant étaient distinctes peuvent devenir des opérations uniques. Ce sont les premiers essais qu'on a fait en 2013 ici, de connexion bois-bois pour rigidifier en fait une arête d'un portique. On l'a calculé, on l'a produit en CLT courbé ici, et puis on l'a monté à l'école de Mendrisio. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est cet aspect low-tech, ce que je montre ici. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la composition classique où vous avez un gitage et puis vous venez par des panneaux par-dessus et des panneaux par-dessus, avoir en fait un système intégré qui soit porteur, qui forme une hauteur statique et qui crée un vide dans lequel on peut intégrer l'isolation thermique. Donc c'est quelque chose qu'on a développé d'abord pour les structures plissées telles qu'on les avait développées pour la chapelle Saint-Loup déjà, alors en double nappe, puis en double courbure et puis vraiment connecté uniquement à l'aide de connexions bois-bois. Donc vous voyez un peu ici l'évolution en 2006. C'est la thèse d'Annie Burry pour les structures plissées, très efficaces économiquement, à bois, mais toujours vissées, donc pas très viables au niveau des connexions. La chapelle de Saint-Loup, une simple nappe. En 2014, alors, une simple nappe, mais doublement courbée. Ça veut dire que toutes les pièces sont différentes et on a réussi à intégrer toutes les connexions bois-bois au niveau des connexions entre ces panneaux. Et finalement, un prototype en 2015, qui a donné lieu à une structure en double nappe, doublement courbée. C'est à partir de là qu'on a développé le théâtre Dividi, qui est basé là-dessus, que je présenterai demain. Alors, juste un exemple de notre activité à l'EPFL. En 2014, avec Christopher Robella, on a présenté à Arcadia Conference à Los Angeles une connexion concernant un clips, en fait. Donc, c'est le clips qui existe dans les structures en plastique. On a présenté le principe et on voudrait l'étendre à la construction en bois. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, a priori, ne plaît pas trop à l'ingénieur civil, puisqu'un joint clipsé, il n'empêche pas tellement le glissement d'une pièce par rapport à l'autre, mais il empêche que cette pièce se détache de l'autre. Donc, cette connexion a bien une fonction utile. Donc, on a développé ceci, et ce que je crois peut être intéressant dans la construction en bois, c'est qu'on puisse distribuer des connexions de nature différente sur la même structure, ainsi qu'on peut, par exemple, avoir des joints clipsés qui sont combinés avec des tenons qui, eux, alors, empêchent ce glissement. Ça veut dire qu'on revient un peu à ce qui existe. Donc, vous avez un nœud d'ingénierie qui, lui, doit reprendre tous les efforts intérieurs, moment de flexion, effort tranchant, effort normal, or que ce n'est pas nécessaire et qu'on peut très bien distribuer ces efforts sur l'ensemble de la structure. C'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à la construction en bois, puisque là, on peut, lorsqu'on travaille avec des connexions bois-bois, intégrer ça et distribuer ça d'un point de vue ingénierie sur l'ensemble de la structure. C'est pour ça qu'on a fait ces tests et on a également monté un prototype. Enfin, c'était un spectacle d'opéra dans la cathédrale de Lausanne, mais c'est surtout le fait qu'on a un système clipsé ici qui permet alors de clipser des bancs ensemble, de les déclipser aussi. Selon la nature du panneau, on peut le déclipser autant de fois ou peu de fois. Il y a, pour la cathédrale, ça a été réalisé en OSB, ça fonctionne peut-être 5 fois, quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que ça ouvre la perspective vers une utilisation plus durable de nos ressources et le fait de les réutiliser également. On travaille actuellement sur un grand projet ici qui est la construction, c'est un hall en fait, si vous voulez, c'est une menuiserie au Luxembourg. Donc c'est 23 arches qui sont tous de formes différentes, qui partent sur 25 mètres et sur 50 mètres ici. Et j'ai proposé une structure qui s'inspire en fait des constructions de Eladio d'Este, qui lui produisait des voûtes à partir de briques. Et la courbure, la double courbure de ces voûtes était compensée par les joints. Et donc, même si une brique, c'est un élément discret, toujours identique dans sa forme, la courbure était compensée par le joint. Et transporter ça à un ouvrage en bois était le défi qu'on s'est posé pour cette construction. Vous voyez ici la forme d'une voûte et ici différents modèles de discrétisation de cette forme où on a choisi en fait ce système où on travaille alors avec des caissons. Donc vous voyez le rapport avec les structures à double nappe que je montrais, qu'ici on évolue vers carrément un système discret où on forme d'abord les caissons et puis tel qu'un tricot en fait on assemble ces boîtes dans un sens et puis on revient tricoter dans l'autre sens pour les bloquer dans l'espace. C'est quelque chose qui demande du développement dans le sens où on n'a pas la solution directe et on passe par des prototypes différents comme vous le voyez ici qui permettent alors à nouveau par un modèle paramétrique, on en parlait beaucoup de BIM, c'est clair que ici on parle plutôt d'un modèle paramétrique, c'est-à-dire on parle de géométrie. C'est-à-dire que toutes les données géométrie sont comprises dans un seul modèle et que ces données géométriques, en fait, comprennent aussi bien la géométrie d'ensemble servant à montrer l'architecture ou la forme du bâtiment, le descriptif précis de chaque panneau pour le situer dans la structure, mais également le descriptif de la découpe précise sur tous les bords de chaque panneau de la structure. Et donc, vous avez, en fait, un descriptif complet de ça. Et M. Milleval l'a brièvement mentionné, ce qui est important, c'est aussi le lien avec les autres acteurs. C'est quelque chose que je trouve qui reste très difficile, c'est-à-dire on a des constructions en bois qui sont assez bien planifiées jusque dans leurs détails, et lorsque des pièces métalliques ou le raccord avec la fondation ou des éléments béton doivent être mis en place, ça devient tout d'un coup très 19e siècle. Donc on est un peu dépourvu à ce niveau-là, et je crois que c'est quelque chose qui doit être discuté davantage. C'est-à-dire que l'ingénieur civil aussi, comme ça a été dit, doit modifier son comportement et son support et doit finalement contrôler les plans du modèle paramétrique plutôt que de commencer à dessiner ses propres plans à côté. Ici, c'est les prototypes, et donc c'est une structure qui sera visible à l'intérieur et à l'extérieur avec des caissons en bois, et c'est des panneaux LVL en hêtre. Alors, bon, c'est un institut d'ingénierie et on se rend compte que la méthode des éléments finis, tellement vénérée et omniprésente, ne se prête pas très bien pour ce type de structure parce que c'est assez contradictoire de créer des formes doublement courbées à partir d'éléments plans, c'est-à-dire des panneaux, et puis de commencer à mailler en fait ces éléments plans pour une question de maillage d'éléments finis pour sa caractérisation mécanique. Donc du coup, Ariane Rath en fait présente maintenant une thèse l'année prochaine où en fait avoir modélisé ces différents panneaux par un équivalent mécanique qui inclura les semi-rigidités de toutes les connexions. Donc on n'aura plus un calcul séparé pour d'une part la résistance mécanique, la caractérisation des panneaux, et d'autre part des vérifications locales pour des connexions comme on le fait classiquement en tant qu'ingénieur bois. On aura un seul modèle qui intègre en fait ces semi-rigidités de toutes les connexions distribuées sur l'ensemble de la structure. Donc pour ça, il faut faire des tests, mais ce qui nous renconforte beaucoup, c'est que nous avons des temps de calcul qui sont 200 fois moins longs. Ça veut dire que malgré la complexité des structures relativement importantes au niveau géométrique, ce n'est pas pour ça que le temps de calcul va effectivement monter dans les mêmes mesures. C'est quelque chose qu'on pourrait aussi garder très bas, c'est-à-dire on aura finalement un modèle mécanique plus efficace qui nous permet, s'il est correctement connecté au flux de data, de données, du modèle paramétrique être appliqué très efficacement. Ça fonctionne très bien pour des modèles macro. Donc vous voyez, vous avez des caissons en bois, vous avez un modèle équivalent mécaniquement qui comprend toutes les caractéristiques géométriques et mécaniques de cela, et nous permettons alors ainsi de faire le calcul. On est membre du Centre national de compétences fabrication digitale à Zurich. Donc c'est un programme qui court sur 12 ans et nous voulons en fait tous ces outils qu'on développe à Libois mettre à disposition pour l'ensemble des chercheurs via une plateforme qui s'appelle Compass. Donc ces outils qui sont publiés vont être transférés et accessibles en fait à tout le monde. Une autre thèse se base sur l'application finalement des connexions en bois-bois aux panneaux OSB. Vous le savez tous, des panneaux très économiques, mais très difficiles à fixer, enfin rien qui tient dedans. Donc c'est quelque chose où on est en train de créer un outil de dimensionnement plutôt adressé au bureau d'études classique pour transférer l'application de ces connexions bois-bois à des structures de façon générale. Et ce n'est pas limité à des panneaux OSB, c'est juste qu'on aura toutes ces connexions, mais on peut choisir les panneaux qu'on veut. Donc on caractérise en fait finalement la résistance des connexions bois-bois. Et puis après, ce qu'on fait ici, c'est un projet où on construit en fait des dalles orthotropes à partir de panneaux OSB, mais de petits formats, donc uniquement 1,20 m sur 2,40 m. Le petit format, donc il y a plein de joints à l'intérieur d'un caisson qui lui porte sur 10 mètres. Donc c'est une structure extrêmement économique. Ça coûte environ un quart d'une structure en bois lamellé collé, puisque vous avez directement toutes les surfaces et vous avez l'ensemble qui est porteur, mais vous avez aussi fermé votre bâtiment en fait. Donc il n'y a pas la structure primaire plus d'autres éléments pour fermer le bâtiment. En plus, le client ici souhaite remplir donc ces dalles orthotropes de l'isolation thermique qui est exigée. Donc c'est une toiture en chêne qui porte chaque fois sur 10 mètres, qui a, malgré le fuyage du matériau, une hauteur statique de 45 cm porte facilement sur cette portée. Alors l'élément principal, c'est quand même le fait que nous continuons à utiliser des produits dérivés du bois qui continuent à être transportés de gauche à droite sur des longues distances. Or, quand on voudrait directement utiliser les ressources locales là où elles sont. On le dit, on le redit, mais ça ne se fait pas en suffisance. Donc ici, c'est l'idée de lier en fait enfin un arbre spécifique d'une part à la forme d'un bâtiment spécifique d'autre part. Donc on sélectionne en fait dans une région, d'une commune, les arbres pour une construction à l'avance, c'est-à-dire vraiment pour avoir le temps de les utiliser. Par la suite, on veut respecter en fait la forme. Donc on a ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, donc on a des scanners, ici c'est un scanner Faro, très puissant, qui nous permettent à 70 mètres de distance à scanner à 2 mm de précision. Donc on a vraiment en fait une donnée complète de la forêt. Ici on a mis juste un tronc, ça c'est notre laboratoire à Libois. Et donc on a un descriptif très précis. Et ce qu'on souhaite finalement refaire, c'est ce que les constructeurs des navires faisaient déjà, c'est-à-dire on peut associer à certains endroits, lorsqu'on connaît finalement la forme architecturale définitive, une forme qui existe déjà naturellement dans la nature. Et donc, on a la possibilité peut-être de renégocier toute la filière, parce que pourquoi on passe à un formatage intermédiaire? Parce qu'on ne connaît pas finalement le développement direct. C'est-à-dire que il faut passer par la planche, parce que par la suite, il faudra reconstruire un plancher, un para, etc. Mais vous connaissez tous ce type de configuration où un arbre, en fait, poussant sur une pente, en fait, développe un très bon morceau de bois pour tendre vers la verticale. Ce morceau-là n'est pas vraiment valorisé actuellement. Et donc, on voudrait valoriser ce morceau-là parce que, d'un point de vue résistance mécanique, c'est un bon morceau de bois qui pourrait être utilisé. Et donc, on peut discuter à partir du moment où on connaît la forme définitive, si on passe à des planches, et ce n'est pas forcément des planches droites, ça peut aussi être des planches qui tiennent compte de cette anatomie, ou à des blocs, ou à des morceaux aussi, qu'on pourrait couper. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas, en fait, actuellement, sous cette forme. Et par la suite, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue engineering de discuter, alors, connaissant la forme définitive vers laquelle ou dans laquelle ces éléments doivent être intégrés, la découpe, en fait, du bois, la découpe du bois, mais aussi les différentes possibilités d'assemblage qu'on pourrait avoir. Donc ici, c'est une variante qui est développée où on fait quelque chose qui est plus proche de nos développements précédents, où on développe en fait des caissons ici pour trouver soit des formes planes, soit des formes courbes, simplement courbées, doublement courbées. Et on regarde alors les assemblages qu'on fait avec ça. Ici, c'est un prototype qu'on a construit. Ou bien, on peut aussi, étant donné le fait qu'on a constitué une librairie à partir des bois qu'on a scannés précédemment dans la forêt, décider alors très précisément, connaissant leur forme, comment on peut les associer. Et donc, on n'a pas une série de vis, par exemple, où l'ingénieur prescrit d'en mettre une tous les mètres. Non, on peut, en fonction de cette forme, identifier des zones privilégiées de connexion qui, elles, vont être activées mécaniquement. Et ça peut se faire aussi sur des formes, comme vous le voyez ici, où vous avez une continuité longitudinale et une continuité transversale. Tout ça uniquement en rapport avec finalement ce qu'on fait naturellement avec le bois, c'est-à-dire on coupe dedans. Donc on enlève juste quelque chose dedans pour faire ces formes-là. Et donc on a ce descriptif des arbres et on pourrait peut-être, au lieu de systématiquement vouloir aller vers une géométrie dure, garder des géométries plus douces, comme j'essaie de l'illustrer ici, où on aurait des planchers ou des toitures, où on n'aurait que, par l'aide de robots, enlevé certaines zones de ces bois pour les associer. C'est ce qu'on montre ici. Par exemple, une colonne pourrait être faite à partir de deux troncs sur lesquels on aurait, à l'aide de robots, enlevé les parties qui sont indiquées en rouge ici pour optimiser légèrement leur position dans l'espace, mais sans pour autant passer à une colonne tout à fait carrée. Donc, vous avez ici les deux prototypes qui sont discutés actuellement par rapport à ce projet qui aboutira à la construction d'un bâtiment directement dans cette philosophie-là, où on n'est pas arrêté sur une version qui tend quand même plus vers les caissons ou une autre qui resterait plus proche d'application du bois rond. Enfin, ce qui est très important par rapport à cela, c'est aussi l'image architecturale. Lorsqu'on parle de charpente ou de bois rond, beaucoup de gens ont en tête directement donc le chalet, du bûcheron, etc. Or que ça ne doit pas forcément être cela. Et je crois que c'est une donnée très importante en tant qu'élément générateur aussi de l'expression architecturale. C'est quelque chose qui peut être intéressant dans ce lien que nous cherchons tous à optimiser cette ressource qui est de plus en plus précieuse, je crois, dans nos discussions. Alors, on a résumé en fait ça dans des livres qui sont ainsi paru en français, Structures innovantes en bois, qui ont été édités par Birkhäuser. Merci pour votre attention.